Yeah.
Willet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
Grand retour de tous nos chroniqueurs cette semaine, parce que c'est le grand retour de toute l'équipe cette semaine. Et c'est au tour de Benjamin Tremblay que je suis très heureux de retrouver pour une saison extraordinaire. Puis je pense que je te le dis à toutes les fois qu'on se parle sur nos communications, Benjamin, on manquera pas de stock, je crois, cette année. Et je te souhaite aussi une bonne année. Comment ça va?
Ça va très bien. Ça va me prendre une musique de lutteur quand je débarque des affaires comme ça.
Il va avoir du matériel, même que, tu sais, ouais. Des fois, je me souviens d'un temps où on cherchait des sujets. Tu sais, on était comme, hein, on pourrait parler de ci, ah ouais, il y a quelque chose là, peut-être en Asie, il y a quelque chose. Là, c'est tout le temps 4-5, puis là, faut faire des choix. Puis, on va commencer de ce pas, parce qu'on ira prendre un café si on veut jaser. Mais écoute, je veux commencer avec ce qui se passe, parce que, bon, ça nous touche directement. C'est la visite du premier ministre en Chine qui devient une espèce de nouvelle quand même géopolitique, parce que ça faisait quand même une décennie qu'il n'y a pas un premier ministre qui s'était rendu en Chine. Le dernier, en fait, c'était Justin Trudeau qui avait foutu le trouble en faisant des déclarations sur les droits de l'homme puis sur les Ouïghours. puis je comprends que c'était pas... Il y avait peut-être raison, mais c'était juste diplomatiquement pas l'idéal. Est-ce qu'on va là, Benjamin, parce qu'on veut vraiment rétablir des bonnes relations avec la Chine, ou on va là parce que Donald Trump nous a poussés?
Et c'est une excellente question. C'est aussi la première observation que je ferais. C'est le contexte dans lequel tout ça s'inscrit, on s'entend, là. Trump vient juste de poser un geste assez, on pourrait dire, tabou, disruptif, en allant kidnapper le président d'un pays, quand même, au Venezuela.
Ouais.
Et surtout, c'est sous quel prétexte ça a été fait? Trump l'a dit explicitement. Il a dit « plus jamais une puissance étrangère pourra challenger, défier l'hégémonie américaine sur l'hémisphère ouest ». C'est un signal non seulement pour le Venezuela, allemand, on dit, bon, c'est un signal aussi pour la Colombie, pour Cuba. La réalité, c'est que c'est un message pour tous les pays de l'hémisphère ouest. Puis ce que vient de faire Trump, dans le fond, là, à travers cette affirmation-là, puis à travers surtout le fait qu'on l'a incarné dans un kidnapping de président, puis qu'on est maintenant prêt à dire aller plus loin, c'est qu'on est en train de sévèrement restreindre la marge de manœuvre de tout le monde.
Ouais.
La marge de manœuvre géopolitique, politique, commerciale, diplomatique, militaire, on ne peut plus vraiment choisir avec qui on s'aligne. Fait que là, exactement au moment où Trump nous dit ça, on s'en va rencontrer les Chinois pour aller créer des liens et potentiellement essayer de trouver un contrepoids aux États-Unis en Amérique du Nord. Fait qu'on ne peut pas extraire ce qui vient de se passer là, dans le contexte de tout ça, parce que clairement, ça fait partie du calcul de Mark Carney. Sinon, écoute, on aurait annulé le voyage, tout simplement.
Et je pourrais même ajouter probablement le Groenland aussi dans cette histoire-là.
Oui, le Groenland est un peu par extension la prochaine étape, là, si on veut penser à la fameuse doctrine Monroe, l'idée qu'on a, le corollaire Trump qu'on dit, la doctrine Monroe, qui est de dire on vient pas juste, si on veut, expulser les puissances européennes de notre hémisphère, on vient expulser tout le monde. Toutes les puissances étrangères qui pourraient avoir une influence. Ce qu'on vise ici, c'est bien sûr la Chine, la Russie.
Ouais. Et là, ben, on apprend que, parce que, tu sais, c'est un jeu dangereux quand même. Là, on est dans la haute diplomatie, puis on est dans le haut risque, parce que tout le monde s'attendait peut-être à ce qu'on remette les tarifs des véhicules chinois qui avaient été appliqués pour suivre les États-Unis. Et là, on se disait, bon, s'ils veulent nous donner un break peut-être sur le canola, sur l'agriculture, on pourrait peut-être entrouvrir la porte. Semble-t-il que c'est pas le cas, en tout cas pas encore. Le voyage n'est pas terminé, mais c'est pas dans les plans. Mais il y a quand même des concessions là, sur l'énergie, entre autres, le pétrole. Le Canada devrait vouloir, en principe, sortir son pétrole. Mais est-ce que c'est une bonne idée de l'envoyer en Chine? Je suis pas certain qu'au sud, on va voir ça d'un bon œil.
Ça dépend. Là, on a vraiment une drôle de situation qui vient de se produire. Il n'y a pas d'autre manière de le décrire. C'est que tu avais l'essentiel du pétrole qui était produit au Venezuela qui s'en allait en Chine.
Oui, c'est vrai.
Et là, ben, eux autres, c'est ça. Ben, c'est ça, on a un peu un switcheroo qui est en train de se passer parce que le pétrole que le Venezuela va fournir aux États-Unis maintenant, c'est nous qui le fournissait.
Ben oui.
C'était du pétrole lourd qui était acheminé par les pipelines en provenance du Canada, là, à travers le Midwest américain, etc. Fait que c'est nous qui approvisionnait ces raffineries-là, particulièrement notamment dans le Golfe. Fait qu'il faut comprendre que là, le Canada se retrouve un peu dans une mauvaise posture. Il faut qu'on se trouve un client pour acheter ça. Fait que la scène à laquelle on assiste en ce moment, c'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment le Venezuela qui change de fournisseur, puis le Canada qui change de client.
Ouais.
Un peu directement lié à cause de ça. Moi, sur la question des véhicules électriques, je t'avoue que je suis un peu tout seul sur mon île là-dessus. Là. Puis on a entendu une déclaration de Doug Ford, je pense qu'il est pas mal mon seul allié sur ce dossier-là à date, sur la question des véhicules chinois, qui lui disait « Wow, ouais, si vous voulez lever les tarifs sur les véhicules chinois, il n'y a pas de problème, mais... » Il faut qu'il soit construit au Canada.
Ouais.
Et ça, là-dessus, moi, je t'avoue que je le rejoins un peu, au sens où ce qu'on construit en ce moment, c'est des voitures américaines. On n'a pas de voitures indigènes canadiennes. On n'en a pas de constructeurs
locaux. On a du japonais puis de l'américain.
Oui, mais c'est ça. C'est qu'on construit des voitures étrangères. On est construit pour notre marché à nous. Puis c'est un peu ça qu'on a toujours voulu avoir. C'est que, quitte à consommer des voitures au Canada, ben au moins qu'on les fabrique sur place. Fait que, moi, je dis, si on est pour donner un cadeau incroyable, permanent, indélébile pour l'économie chinoise, qui est l'accès au marché nord-américain. C'est un gain incroyable, cela, là. Puis l'accès à 30 millions de consommateurs additionnels, ben, je dirais, on devrait aussi recevoir une concession permanente et sérieuse en échange, qui serait d'envoyer la production au Canada. Puis ça, les Chinois n'ont pas vraiment un désavantage à ça. Tu comprends que justement, dans le contexte actuel, c'est vraiment parfait pour eux, parce qu'eux autres s'en sacrent de faire du profit, s'en sacrent de créer.
Non, ça serait du dumping, parce qu'ils en produisent beaucoup plus qu'ils en ont besoin.
C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que moi, si on est pour les produire ici, que ce soit des véhicules américains, des véhicules chinois, je pense que nos cellulaires sont chinois. Faut pas virer fou avec
mais,
ça.
Mais, t'as raison, mais je pense que j'ai quand même un trauma parce que la fois où on les a laissés rentrer, souviens-toi de l'expérience des tours de communication. C'est Huawei, là. Puis, je veux dire, ça a pris un an qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des espions, il y a des puces là-dedans. Il y avait on était sous surveillance parce qu'on les a laissés rentrer. Fait que moi, j'ai toujours
maintenant
un petit cas. Puis, imagine passer les douanes avec ton char bide. De ce temps-là, je suis pas certain que tu te fais pas fouiller à grandeur, incluant l'interne, là.
Ah, c'est sûr, certain que les Américains vont être très sympathiques avec les véhicules chinois à la frontière. <C'est... rire> Non, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, on pourrait apporter un... Si on joue l'avocat du diable, on s'est aussi rendu compte que les Américains avaient des backdoors à travers toutes les machines de serveurs Cisco. C'est ça qui est exposé dans les dossiers Wikileaks de... Snowden, pardon. Lorsqu'il avait exposé tout ça, comme quoi les Américains avaient aussi moyen d'écouter toutes les communications, particulièrement de leurs alliés. C'est un peu ça qui les faisait chier, là, quand tu voyais les Chinois débarquer avec leur équipement. C'était pas tellement le fait que les Chinois ramassaient de l'information, autant qu'eux autres perdaient leur backdoor pour avoir accès à la leur.
Hey, c'est mes poissons, ça.
C'est ça, s'il te plaît, sors de mon espace. Un peu carrément, doctrine Monroe, un peu en avance.
Changement de sujet drastique quand même, mais je pense qu'il faut aller faire une petite saucette en Iran. Suis-je le seul à zéro croire qu'il ne se passe plus rien? Hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donald Trump a dit non, c'est beau, ils ont arrêté de tuer du monde, puis il n'y aura pas d'exécution. Fait qu'on va prendre un break. Je ne sais pas s'il y a du nouveau, parce qu'il y en a à peu près à toutes les minutes, mais je crois zéro ça. Est-ce que toi, tu as du factuel? Tu as quelque chose qui nous permette de croire que tout est maintenant calme en Iran?
On n'a pas grand-chose. En fait, la déclaration que Trump a faite, ça venait d'une affirmation qui lui avait été faite, on dit par quelqu'un de haute autorité.
Ouais.
On présume, en fait, là-dessus, que c'était le ministre des Affaires étrangères là, qui est en contact avec Steve Witkoff aux États-Unis, ministre Abbas Arachi, qui est ministre des Affaires étrangères iranien, qui, lui, nous disait « Non, c'est fini, on a repris le contrôle, tout est correct, calmez vos nerfs. » Et honnêtement... C'est possible. C'est difficile de dire est-ce que c'est le cas ou pas parce que on n'a pas d'informations, on n'a pas d'images, on a juste Al Jazeera qui est autorisé à opérer actuellement. Puis effectivement, si on se fie aux informations qui nous viennent d'Al Jazeera, il n'y a rien qui se passe en Iran depuis deux jours.
Il y a quand même eu 10 000 arrestations, là, je ne sais
pas. Oui, c'est ça. Puis aussi, le crackdown du régime iranien a été extrêmement intense. Il faut le comprendre. Là. Les Iraniens ont non seulement massacré les gens à coups de dizaines de milliers, on aura les chiffres éventuellement éventuellement un jour, la vérité finira par savoir si c'était de l'ordre de quelques centaines ou plusieurs milliers. Mais on sait qu'il y a eu un massacre, on sait qu'il y a eu des exactions. Maintenant, c'est aussi en parallèle de tout ça, le gouvernement iranien, tous les soirs, envoyait des messages textes, un peu comme des alertes en berre, à travers toute la population pour dire aux gens, attention, là, gardez votre monde chez vous ce soir. Là. On vous avertit, ça se pourrait qu'ils ne reviennent pas à la maison.
On va brasser.
Ouais, fait que les gens ont eu tendance aussi à rester chez eux. Puis il faut comprendre là, la nature quand même de ce à quoi on est exposé actuellement. Il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de propagande. Des deux côtés, on essaie de nous faire croire qu'on est à l'extrême du spectre. On nous fait croire en Iran que tout est terminé, tout est calme, puis les gens écoutent la TV à la maison. Et les Israéliens essaient de nous faire comprendre que c'est la fin du régime, puis ils sont à une frappe américaine d'enfin en finir. Il y a beaucoup de propagande là-dessus. Puis là-dessus, justement, parlant de propagande, ce qui est intéressant à voir actuellement, là, c'est tout le talk autour du Shah d'Iran, l'ancien Shah d'Iran, oui. Son fils.
Ah, j'ai lu ce que tu as écrit là-dessus, puis je l'ai dit, on l'a dit, mais écoute, on est raccord là-dessus complètement. Est-ce que tu vas me dire que tu comprends pas trop le buzz?
Je comprends pas. Non, je comprends pas non plus. Ben, mais je comprends pas pourquoi les gens embarquent. Parce que c'est une opération israélienne. C'est littéralement une opération d'influence israélienne qui dure depuis des années avec du financement saoudien. Depuis les années 2000, qu'il essaie de placer avec Netanyahou le fils du Shah, Reza Pahlavi. Faut comprendre pourquoi Reza Pahlavi, son père, c'était une marionnette des États-Unis puis d'Israël. Il a vidé le pays au nom, justement, du Royaume-Uni, de la France, États-Unis, Israël. Il a été une honte grotesque pour le peuple. C'est pour ça qu'il a été remplacé en 1979. Fait que là, aujourd'hui, les Israéliens sont comme, ah, mais là, si le régime iranien tombe, c'est la seule alternative. C'est pas vrai, là. L'alternative, c'est d'organiser des élections avec des observateurs internationaux. Il y aurait probablement une assemblée constituante pour réécrire la Constitution si c'est la volonté populaire. Faut comprendre aussi que les manifestants, là, c'est pas tout un message qui scande, là. Et on voit beaucoup d'images de « ramenez-nous le Shah ». Absolument. Ça, c'est l'opération israélienne exact. La vérité, c'est que tu as des gens aussi qui, un peu comme ici, là, si tu avais une manifestation contre les mesures sanitaires, exemple, tu as du monde qui sont contre le régime et qui veulent pendre tout le monde au gouvernement, mais tu en as une méchante gang aussi qui sont juste pour, un, changer le gouvernement, ou encore moins que ça, juste changer la loi, ou encore modifier, réformer la loi,
Je veux dire, aussi weird que ça puisse nous paraître en tant que Nord-Américain, il y en a qui appuient le régime. Il y a des gens qui sont avec l'ayatollah.
Ça choque les gens. Ça choque les gens JC d'entendre ça puis de voir ça. Là, ils sont vraiment dans un bout où il y a beaucoup d'émotions, pas d'espace pour beaucoup de discernement. Mais c'est important de comprendre. On a affaire à un gouvernement qui dirige depuis 1979.
Ouais.
Il y a, sans équivoque, c'est indéniable, il y a un cœur d'appui à la population au gouvernement parmi la population. Il n'y a pas juste des opposants. Puis ça, c'est le point sur lequel c'est important. C'est important de le savoir, parce que là, les gens voient les Iraniens comme un groupe monolithique qui essaie de vaincre son gouvernement, ou alternativement, ceux qui sont un peu plus nuancés me disent « Oui, il y en a qui appuient le gouvernement, mais on s'en sac. C'est pas grave, c'est des colons, c'est des consanguins, c'est pas grave. » C'est vraiment ça le message. Moi, je vous dis, faites attention. Il y a une raison pourquoi je martèle là, qu'il y a une complexe société iranienne en dessous de tout ça, c'est qu'on est au précipice d'une guerre civile. C'est que dans l'éventualité où il y avait effectivement un coup d'État qui serait lancé, on ne peut pas évacuer maintenant le fait qu'il existe de la population qui appuie le régime, parce qu'on serait devant une guerre civile très probable. Le régime iranien, justement, parce qu'il a peur de se faire renverser, parce qu'il a peur d'un coup d'État, il a tout fragmenté ses services de sécurité en plein de petites organisations avec chacun du financement autonome, des armes, leur chaîne de commandement, des intérêts croisés. Fait que demain matin, là, si jamais, par exemple, l'armée décide de se ranger avec le peuple, mais ça change absolument rien. Les gardes de la Révolution, qui sont la plus grosse force armée en Iran, répondent pas au gouvernement. Ils répondent seulement à l'ayatollah. Puis là, ensuite, je te demande, qu'est-ce qui arrive avec le Basij, avec les forces à l'intérieur du gouvernement, du territoire iranien? Qu'est-ce qui arrive avec la police? Qu'est-ce qui arrive avec les services de renseignement? Qu'est-ce qui arrive avec tout l'axe de la résistance qui est dans la région?
Tu vois, c'est toutes ces questions-là aussi qu'on aurait pu et dû se poser en Irak, là, entre autres, et en Syrie.
Ben oui. Puis moi, je dirais, C'est sûrement ça qui fait hésiter un peu les Américains en ce moment. Et tu vois ce qu'ils ont fait au Venezuela, hein? Ils n'ont pas fait ce qu'on appelle le changement de régime. On passe de changement de régime à gestion de régime. Parce qu'on savait en passant, c'était une recommandation de la CIA qui a dit non, laissez le gouvernement en place, faites juste partir avec Maduro. Parce que la CIA, après des années de renseignements estimés, on va se tomber en guerre civile sinon. Ça va être l'instabilité. La seule manière de garantir la stabilité, la continuité puis la sécurité au Venezuela, c'est de laisser le gouvernement en place. Si on débâtit puis on décapite toutes les institutions, ça va être des années de trous noirs comme en Irak, comme en Afghanistan, comme au Vietnam. On veut surtout pas ça. Fait que probablement que ça fait partie du calcul américain aussi de se dire « Ouais, changement de régime ». Idéalement, tu peux juste tuer l'ayatollah puis ses proches.
Ouais.
Idéalement, ouais. Tu comprends? Puis laisser le président, puis laisser le régime islamique se réformer de lui-même. C'est sûr que c'est l'option préférée.
Monsieur 87 ans peut aussi espérer puis patienter.
Ouais, exact.
Merci, Benjamin. Merci. Grand merci. Retour. Merci d'être là avec nous pour la saison. On est bien contents. Salut, bonne semaine.
Bye-bye.
13-24, on revient dans quelques minutes. Ce sera pas bien long.
Bravo. En direct.
En direct.
Radio. Radio. X.